VOA Afrique, les infos. À Washington.
Jean-Roger Billon, bonjour à tous. Il est 11h en temps universel. L'armée burkinabé a affirmé dimanche avoir tué 32 terroristes au cours de deux jours d'opérations dans le nord du pays, gangrénées par des attaques djihadistes de plus en plus fréquentes et meurtrières. Cette annonce survient une dizaine de jours après la spectaculaire attaque dans l'est d'un convoi de la société minière canadienne Semafo attribué à des djihadistes et qui a fait au moins 38 morts. Cette attaque avait traumatisé tout le pays. Le Tchad va envoyer des soldats pour sécuriser les frontières du Mali, du Burkina et du Niger, qui peinent à freiner les attaques djihadistes. Mais la décision du président Idriss Déby Itno ne fait pas l'unanimité dans le pays, nous dit de N'Djamena notre correspondant André Kodmajinga.
Après plusieurs semaines de débats au sujet du réajustement du dispositif de combat de la coalition du G5 Sahel, le président tchadien a finalement accepté d'y déployer ses troupes. La décision a été prise après la visite de la ministre française des armées à N'Djamena il y a plus de deux semaines. Un engagement diversement apprécié à N'Djamena.
Déby seul, en tant qu'individu, ne peut pas utiliser notre armée comme les pions sur les jeux de dames. Il les déplace quand ça fait son intérêt. Il fait le chantage avec. Après, quand il trouve que ça va le profiter, il les envoie là-bas. Faut que cela cesse.
Maître Bongourou Tchoufil, président du parti pour le rassemblement et l'équité au Tchad. Pour lui, le président Déby tire un bénéfice politique sur le déploiement de plusieurs milliers d'hommes à l'extérieur sur les théâtres des opérations de guerre.
On sait que le président de la République est subtil en cette matière. Il se fait passer pour le rempart contre les terroristes et puis c'est nos enfants, ce sont nos familles qui sont en danger tous les jours. Tirant les leçons de ce qui s'est passé au Mali, on ne va pas aveuglément accepter parce que le président a dit, non.
Pour Maire Mtar Prosper, député à l'Assemblée nationale, le peuple tchadien attend du gouvernement le bilan des pertes en vies humaines et le coût financier du déploiement des militaires tchadiens au Mali depuis 2011.
De toutes les manières, l'Assemblée nationale n'est pas saisie, donc nous attendons de voir les arguments qui seront avancés pour que nous donnions notre position sur ce sujet. Mais avec la situation de crise sociale où les fonctionnaires ne sont pas encore rétablis dans leurs droits, où les 20 000 jeunes diplômés sans emploi promis pour l'intégration à la fonction publique en 2020 n'ont pas encore vu leur dossier engagé, où les hôpitaux manquent cruellement de médicaments et que le palu tue la population tchadienne à merveille, il serait cynique que le gouvernement tchadien dépense l'argent de notre trésor public pour satisfaire les autres nations et que nous ne bénéficierons que l'enterrement de nos soldats.
Cette opposition rate une fois de plus l'occasion d'être à l'unisson du peuple tchadien.
Jean-Bernard Padaré est le secrétaire national chargé du groupement socio-professionnel du parti au pouvoir.
La paix n'a pas de prix. Donc pour moi, ceux qui sont pour les espèces sonnantes et trébuchantes sont des boutiquiers. L'adage africain dit quand la case de votre voisin brûle, la prochaine étape, ça sera la vôtre. Le président Déby a pris le temps d'évaluer le pour et le contre en termes de sécurité de nos troupes et surtout en termes de sécurité pour nos frères africains. Qu'est-ce que le déploiement des troupes dans la zone sahélienne peut rapporter en termes de victoire électorale?
Selon le député Mbaïrmtar Prosper, les dispositions de la nouvelle constitution ne laissent aucune chance à l'Assemblée nationale d'interpeller le président sur cette question. André Kodumadjingar Ndjamena pour VOA Afrique.
Le candidat du parti au pouvoir au Nigeria a remporté aujourd'hui l'élection régionale dans l'état pétrolier de Bayelsa, c'est dans le sud, a annoncé la commission électorale, un résultat qui renforce l'influence croissante du président Muhammadu Buhari. Dans ce bastion de l'opposition, Bayelsa est un fief du Parti démocratique populaire, le PDP de l'ancien chef de l'État Goodluck Jonathan, le principal parti d'opposition. Le scrutin qui se tenait également dans l'État de Kogi, dans le centre, où les résultats ne sont pas encore connus, a été marqué par de nombreux incidents, dont des meurtres, des enlèvements et le vol de matériel de vote. La France et le Sénégal se sont engagés dimanche à coopérer pour lutter contre les migrations irrégulières à l'occasion de la visite à Dakar du Premier ministre français Édouard Philippe, venu également s'entretenir avec le président Macky Sall de la lutte anti-djihadiste au Sahel. Cette semaine, après un débat au Parlement français sur l'immigration voulu par Emmanuel Macron, qui a notamment abouti à la fermeture, à la future instauration de quotas d'immigration professionnelle, France et Sénégal se sont notamment engagés à poursuivre une coopération efficace contre les migrations irrégulières selon les termes de la déclaration de commune. Par ailleurs, le Premier ministre français a restitué au nom de son pays le sabre d'El Hadji Oumar Fatou Tall, un souverain et guide religieux soufi sénégalais, considéré alors comme l'un des plus farouches opposants à la pénétration coloniale. La cérémonie s'est tenue dimanche au Palais de la République en présence du président Macky Sall. Compte rendu de notre correspondant sur place, Sédina Abagay.
Le premier ministre français a remis le sabre de l'âge mort Foutu-Tall au président de la République Macky Sall, un moment solennel et historique accompagné d'applaudissements et des Allahu Akbar. Dans ces moments empreints d'émotion, le sabre est par la suite remis au ministre de la Culture du Sénégal, qui l'a à son tour confié au directeur du musée des civilisations noires. Le porte-parole de la famille de El Hadj Omar Foutu-Tall, après avoir remercié la France, a rappelé qu'une importante partie de leur patrimoine reste toujours dans l'Hexagone, en particulier 517 livres et manuscrits de Ségou, le trésor, la collection privée Archinard, les 150 photos de la collection Archinard et la peau de prière, ainsi que divers autres objets ayant appartenu à leurs ancêtres. De son côté, le président de la République Macky Sall a qualifié l'événement d'historique. Pour lui, cette cérémonie de remise symbolique s'inscrit dans une dynamique de restitution du patrimoine culturel africain. Le chef de l'État sénégalais estime qu'en restituant le sabre, la France célèbre en même temps sa grandeur. Il ajoute par ailleurs qu'avec cette restitution, la France ouvre la voie à tout ce qui détient le patrimoine africain. Le président Sall a conclu en affirmant que le Sénégal est prêt à accueillir son patrimoine, car le patrimoine rapatrié à sa source fera aussi place à l'échange par une circularité ouverte à l'Afrique, à l'Europe et au reste du monde. À Dakar, Sédina Bagui pour VOA Afrique.
Érudit musulman et guide de l'importante confrérie des Tidiane, El Hadj Omar fut à l'origine de l'empire tout couleur qui comprenait la Guinée, le Mali, le Sénégal actuel. Il combattit les troupes françaises de 1857 à 1859 avant de signer un traité de paix avec eux en 1860. Selon des historiens sénégalais, il disparut mystérieusement dans les falaises de Bandiagara au Mali en 1864. La campagne électorale pour la présidentielle en Algérie a débuté dimanche dans la discrétion, 7 mois après la démission d'Abdelaziz Bouteflika, alors que le déroulement et l'issue de ce scrutin sont incertains en raison de son rejet total par le mouvement de contestation. Les 5 candidats en lice ont tous participé ou soutenu les 2 décennies de présidence Bouteflika et sont donc vilipendés par une bonne partie de la population. Parmi eux, les ex-premiers ministres de M. Bouteflika, Ali Benflis, et Abdelmajid Tebboune, des septuagénaires qui font figure donc de favoris. À leur côté, Azedine Dahmioubi, Abdelaziz Belaïd et Abdelkader Bengrina. La campagne se terminera le 8 décembre à minuit, 3 jours avant le scrutin. Les membres de l'ethnie Sidama en Éthiopie doivent se prononcer mercredi par référendum pour la création de leur propre région autonome au sein de l'État fédéral éthiopien. Nouvelle illustration d'une poussée de revendications régionales susceptible d'ébranler l'Éthiopie. La route des Sidama pour quitter la région des Nations, Nationalité et Peuple du Sud, à laquelle ils appartiennent actuellement, a débouché sur des violences qui ont fait plusieurs dizaines de victimes en jeu et conduit Addis Abeba à placer la zone sous contrôle de la police fédérale et de l'armée.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Hors du continent, la police de Hong Kong annonce qu'elle envisage l'utilisation de balles réelles face aux armes létales utilisées contre elle durant les affrontements autour d'un campus devenu depuis hier la principale base arrière de la contestation pro-démocratie, Bagati Koura.
Oui, c'est après qu'un policier a été blessé dimanche par une flèche tirée par un manifestant autour de ce campus cerné par des barricades en flammes que la police a lancé dans la nuit son avertissement sur l'utilisation de balles réelles, le premier de ce type depuis le début des protestations. Depuis juin, l'ex-colonie britannique de 7,5 millions d'habitants est secouée par la pire crise politique depuis sa rétrocession à la Chine en 1997, une crise nourrie par la mainmise grandissante de Pékin et le recul des libertés, une contestation qui a atteint cette semaine de nouveaux sommets de violence. Dimanche soir, des centaines de protestataires étaient retranchés dans l'Université polytechnique de Hong Kong à Kowloon, où ils ont allumé de grands feux pour empêcher la police de la reprendre. Ils ont aussi maintenu le blocage du Cross Harbour Tunnel, un tunnel routier desservant l'île de Hong Kong fermé depuis mardi. Les médias officiels ont plusieurs fois averti que l'armée chinoise stationnée dans la région semi-autonome pourrait intervenir pour réprimer le mouvement. Le président Xi Jinping a adressé cette semaine sa mise en garde la plus claire à ce jour, affirmant que la contestation menaçait le principe « un pays, deux systèmes » qui a présidé à la rétrocession.
Le nouveau président du Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, a prêté serment aujourd'hui dans un temple bouddhiste, actant le retour au pouvoir du puissant et redouté clan des Rajapaksa après une élection présidentielle marquée par un vote polarisé. Gotabaya Rajapaksa, âgé de 70 ans et frère de l'ex-président Mahinda Rajapaksa, qui a